comment un troupeau tel que le nôtre, en tant qu'église locale, nous devons avoir comme relation et comportement à l'égard d'un pasteur, qui, de telle manière que nous puissions être dans la pensée qui est la sienne, celle de Dieu, qui soit approuvée de Dieu. Donc, je ne prêche pas pour la paroisse Garcia, le frère s'en va. Je prêche, entre guillemets, pour la paroisse Pouget, qui n'est même pas au courant que je vais dire ces choses-là. Donc, vous voyez, c'est... Et puis, ce qui est dit, c'est un rappel de la parole de Dieu. C'est à chacun d'entre nous de voir comment nous, chrétiens, troupeaux de Dieu, nous avons comme relation par rapport à nos leaders pasteurs. Alors, pour cela, j'aimerais lire un texte qui se trouve en introduction dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 13. C'est l'apôtre Paul qui écrit et qui parle avec son cœur dans sa relation, lui en tant que serviteur l'Église. Il dit, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. » Regardez la liste maintenant de ce que doit être, ce qu'on attend, ce qui devrait être un serviteur de Dieu, ce que Dieu attend de lui. Alors il dit, nous sommes recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, la patience à outrance, hein, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire ou de l'ignominie, au milieu de la mauvaise ou de la bonne réputation, étant regardé quelquefois comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, alors que nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte vers vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. On sent une relation dramatique et douloureuse. Et la Bible est écrite en exemple pour nous, autant par des exemples positifs que par des avertissements avec des exemples négatifs pour que nous ne puissions pas les suivre et nous en éloigner. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, c'est intéressant et ça donne une occasion pour chacun d'entre nous de rechercher qu'est-ce qui se passe dans tout cela, comment ces Corinthiens qui ont été tellement choyés par l'apôtre Paul se sont laissés entraîner dans une telle situation, etc. Mais on sent l'émotion, parce qu'en fait, nous sommes tous faits de chair et d'émotion, autant les chrétiens que le pasteur ou les pasteurs qui sont autant de chair et d'émotion. Alors, bon, allons maintenant dans d'autres passages. Vous avez remarqué que j'aime bien citer, je laisse essentiellement la parole de Dieu nous parler et puis y ajouter quelques points supplémentaires. Donc, Dans Éphésiens chapitre 8, verset 12, nous découvrons que les serviteurs de Dieu sont des dons que Christ, le chef de l'Église, donne à l'Église. Et c'est un cadeau de Dieu. Et il y a des églises qui souffrent terriblement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ce genre de cadeaux, parce qu'il n'y a pas suffisamment de serviteurs de Dieu. Hein. Il en manque. Et pour nos églises, il en manque. Il y a des assemblées de Dieu où il n'y a pas de pasteur. Alors, dans Éphésiens 4, verset 8, il est dit « C'est pourquoi il est écrit « Étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie, parlant de Jésus, hein, « Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Hein? Donc, c'est un... avoir un pasteur, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau du Seigneur. Il nous a donné. Dans Jean chapitre 13, verset 20, Jésus enseigne et il dit ceci, « en vérité, je vous le dis, celui ou celle ou ceux ou l'Église qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Recevoir les porte-paroles du Seigneur, c'est le recevoir. Là, je parle, comme je vous ai dit, comme l'un, un chrétien du troupeau. Et je m'adresse à nous, chrétiens du troupeau, par rapport à ce que nous devons être, par rapport à ceux qui nous dirigent. Si j'avais devant moi des collègues, serviteurs de Dieu, j'aborderai des exhortations différemment. Mais là, hein, il y en a deux qui trichent, ou trois qui trichent, mais donc je parle ce soir du côté de nous, chrétiens, comment nous devons nous comporter. Christ nous dit ce que je vous donne. Eh bien, traitez-les comme si c'était à moi. La manière dont vous traitez votre pasteur, quand vous le recevez, vous me recevez. C'est important. C'est Jésus qui nous dit ces choses-là. C'est important pour nous, troupeau de Dieu, de bien les accueillir. Recevoir comme si c'est le Seigneur, les assister, les aider, se soucier de leurs besoins, de leur installation, etc. Dans Romains chapitre 16, c'est ce que l'apôtre dit à une église. Verset 1, au sujet d'une servante. Bon, on ne va pas polémiquer sur homme, femme, tout ça, mais en tout cas, voilà. Quelqu'un qui sert le Seigneur. Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aurait besoin de vous. Les choses matérielles, son installation, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. La manière dont on reçoit Jésus au travers de la manière dont on reçoit le serviteur du Seigneur qu'il nous confie. 1 Corinthiens 16, verset 10. Paul parle maintenant aussi à une autre église locale Elle dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix. Voilà ce que l'apôtre dit aux Romains, puis ce qu'il dit à l'église de Corinthe, bien accueillir, bien prendre soin de notre serviteur, quel que soit son nom. Hein, vous avez maintenant très bien compris. Leur donner de la déférence et du respect dans la tâche et la position qui est la leur. En fait, voilà une parenthèse hein, pour que ça ne soit pas comment dire, des intouchables, des dieux intouchables qui disent « moi je suis loin de l'Éternel, ne me touchez pas ». Si j'étais en face d'un groupe de serviteurs de Dieu, je défendrais à quiconque, et moi y compris, de parler de cette manière-là. Et j'en ai connu, malheureusement, j'en ai connu. C'est inacceptable, une telle position. Mais là, je parle à nous, chrétiens. Leur donner de la déférence et du respect. Ce sont des leaders. Ils servent avec un cœur de serviteurs. Ils ne sont pas là pour dominer, mais ils sont quand même leaders. Ils sont quand même notre chef et du troupeau. Dans Philippiens chapitre 2, verset 25, et puis on saute un peu verset 29, Paul parle maintenant d'un autre serviteur de Dieu qui s'appelle Épaphrodite. Il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Verset 29, « Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Ce sont des termes importants. Malheureusement, dans le rythme du service de Dieu et ici ou là, eh bien, nous en avons croisé de comportements chrétiens où nous avons été témoins de chrétiens qui méprisaient leurs serviteurs. C'est tellement douloureux, tellement... Voilà, on l'a lu hein, avec l'apôtre Paul. C'est détestable. Et quand on sait que le Seigneur nous aime et aime aussi ses serviteurs et nous les envoie et qu'on se comporte comme ça, comment, je ne sais pas, hein, comment lui, il doit ressentir. Donc il est dit honorer de tels hommes. 1 Corinthiens 16, verset 16 et verset 18. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Il est dit au verset un petit peu plus loin, « Sachez donc apprécier de tels hommes. » Sachez donc apprécier. Des fois, on ne voit que le côté imparfait, parce que ça reste des personnes hein, dans leur chair imparfaite, et à faire des progrès, et moi-même j'ai encore plein de progrès à faire, mais des fois on ne regarde que certains côtés, peut-être tout à fait vrai, de quelques failles mineures, faiblesses ou difficultés là, on ne montre pas notre appréciation, ni on apprécie le maximum du dévouement et de la consécration du serviteur de Dieu. Donc là, Paul avertit, il sait que nous sommes tous faits de chair, de la même chair, nous sommes tous pareils. Et donc, même à cette époque-là, eh bien, il y avait à encourager des chrétiens dans une vie harmonieuse et dans cette relation avec les serviteurs de Dieu. Vous vous rappelez d'un homme qui s'appelle Corée dans l'Ancien Testament, hein? Cet homme qui s'était mis en grippe contre Moïse parce qu'il voulait, il voulait vraiment, il dit mais pourquoi lui il nous dirige, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, Moïse, il a fait le maximum pour tenir bon et puis pour ne pas répondre, mais à un moment donné, c'est Dieu qui a répondu. Et ça n'a pas été facile pour Corée. Voilà. Donc, sachons avoir du respect de la différence. Les apprécier. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Toujours dans la même, vous voyez? Donc, vous avez vu, il écrit aux Philippiens, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Romains, maintenant il écrit aux Thessaloniciens. Donc, si toutes les églises locales de cette époque avaient besoin d'être au clair, eh bien, nous, pourquoi pas, hein, dans l'époque particulière dans laquelle nous sommes en train de vivre. 1 Thessaloniciens 5, verset 12-13, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Voilà des exhortations. Il est important aussi que nous ayons une attitude d'obéissance et de soumission. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, 18. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Et ça, c'est une grande responsabilité. Ils ont charge d'âme et Dieu leur demande des comptes. Alors, obéissez. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si le serviteur de Dieu, sous la pression, est en dépression, ce sera ni avantagé pour lui, mais pour l'Église non plus. Priez pour nous. Alors, en même temps que l'auteur, serviteur de Dieu, écrivait ces paroles, il dit « Priez pour nous ». Le serviteur a conscience de ce besoin. « Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. » Nous bien conduire. Donc, il est dit ici des termes clairs, « Obéissez à vos conducteurs ». Et même, j'ajouterai dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Alors, quand Dieu nous accorde quelque chose dans la hiérarchie, ben, on sait quelque chose. Hein. Si vous êtes dans votre travail, vous avez quelques positions de supérieurs et des personnes qui sont sous vos ordres, vous comprenez cela. Et si vous êtes, vous avez des supérieurs, vous comprenez cela aussi. Hein. Soyez soumis à toute autorité. Et dans l'Église, eh bien, Dieu nous a placé ces hommes qui servent le Seigneur. Alors, je dis rapidement, bien les accueillir, bien se préoccuper qu'ils soient humbles au milieu de nous, dans la paix, de la déférence, du respect, de la soumission, de l'obéissance, les porter dans la prière. Tout à l'heure, j'entendais aussi quelques prières à cet égard et c'est formidable. Hein. les porter dans la prière. Donc, c'est que des rappels. Hein. Colossiens chapitre 4, verset 3. L'apôtre Paul dit maintenant à l'église de Colosse, « Priez en tout temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Oui, ils ont besoin de nos prières. Et nous réclamons. Quand le serviteur de Dieu, qu'est Paul, dit cela, c'est en toute humilité. Il déclare, en réclamant la prière des autres, il dit, mais je ne peux pas me passer de vos prières. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous épauliez. Et les pasteurs, ils ont tellement besoin de cette marque de soutien, d'affection et de combat avec eux. Ils ont besoin de la prière. Il le dit aussi dans Éphésiens, chapitre 6, donc maintenant à l'église d'Éphèse, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Allez, on continue quand même, toujours pour dire. Thessaloniciens de nouveau, 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors, priez pour que Dieu puisse leur donner toujours direction, vision pour son œuvre. Priez pour qu'ils puissent proclamer avec assurance la parole de Dieu. Priez pour la protection contre les ennemis, pour que les obstacles à l'avancée de l'Évangile puissent être balayés et qu'ils puissent avancer. Regardez l'exemple des premiers chrétiens dans Actes au chapitre 4. Face à la pression, comme tout à l'heure nous avons entendu la lecture des choses de la société irreligieuse et contraire à Dieu qui oppresse le peuple de Dieu et en premier lieu alors ceux qui les entraînent, les serviteurs de Dieu. Regardez ce que ces chrétiens faisaient. Ils se sont rassemblés et ils ont élevé leur voix tous ensemble vers le Seigneur. Verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ça, c'est l'unité d'une église dans sa diversité, le peuple avec ses dirigeants qui disent « Allez, on avance ». Et ça, c'est formidable. Et quand les serviteurs de Dieu, quand le pasteur sent que le peuple est là avec lui, alors si Dieu met à cœur une aventure à vivre là, un peu hors norme, un peu difficile, un peu défiante, mais au moins on ne se sent pas seul, hein, on se sent avec tout le peuple, et ça c'est formidable. Voilà, alors... Vous savez que c'est important de prier pour les pasteurs, parce que ce sont les bergers du troupeau. Hein. Même Jésus pouvait dire, et je relevais ce verset que je n'ai pas donné dans Matthieu chapitre 26, verset 31, que le jour où Jésus allait être arrêté, lui le pasteur des 12, hein, sa petite église de 12 membres, il dit ceci, voilà, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et combien, malheureusement, on a vu des troupeaux, des églises se délabrer, partir en morceaux, parce qu'il y a eu tout ce domaine-là où il y a eu un serviteur de Dieu indigne, et cela, malheureusement, il arrive. Mais là, c'est une autre affaire. J'ai pas les pasteurs devant moi à qui on va donner les avertissements. Mais il arrive qu'il y a des églises qui se sont complètement dégradées parce que le troupeau n'a pas appris ce que la parole de Dieu nous avertit et comme rappel en ce jour, en cette soirée. Alors, quand même, pour dire un mot sur le côté matériel, regardez, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà. Galates au chapitre 6, verset 6, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens, et dans le texte de la parole, les anciens, c'est ceux qui servent, les pasteurs sont appelés aussi des anciens, que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, c'est normal qu'un pasteur avec sa famille puisse avoir ce qui convient, comme c'est normal pour chacun d'entre nous de recevoir ce qui convient pour vivre. Et là, c'est compris par tout le monde, certainement. Enfin, je termine par un ou deux versets quand même pour dire ce que le devoir du pasteur. Mais je passe pas. Il y a bien d'autres textes, mais je lis simplement pour dire 1 Timothée 4, 12. Paul écrit au serviteur de Dieu qu'il va envoyer vers un endroit. Et il dit, tu sais, toi, maintenant je parle à toi, Timothée, serviteur de Dieu, que personne ne te méprise. Comme tu es jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, toi, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 2 Timothée 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc. Voilà. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà, c'est quelques versets, mais il y en a plein, que nous devons, nous, dans notre position, en tant que dirigeants, serviteurs, pas dirigeants despotiques et dominateurs, mais un dirigeant qui exerce son service de direction, mais avec un cœur de serviteur. Voilà, il y a plein de versets pour nous. Mais pour nous, Église, eh bien, il y a ces paroles. Et je termine pour pour réunir le sens de nos responsabilités relationnelles réciproques en relisant encore ce texte d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 jusqu'à 16. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour nous tous, pour notre bien, pour son corps, hein, en vue du travail, du service, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, dans notre croissance, parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Le chef suprême, c'est Christ. Et pour le pasteur, son chef, c'est Christ. Pour chacun d'entre nous, notre chef, c'est Christ. Mais derrière, eh bien, il y a ces positions-là. C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous prions pour notre pasteur, que Dieu le bénisse avec son épouse, avec sa famille, dans leur installation dans l'église locale de Bastia. Nous prions pour le serviteur de Dieu qui va venir, pour que Dieu le bénisse. Nous examinons nos cœurs, nous examinons la parole de Dieu pour dire Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres, et dans ma relation en tant que membre, brebis d'un troupeau avec mon berger, Seigneur, je veux être en harmonie avec ta parole. Ce ne sera pas facile parce que nous avons des caractères. J'ai aucune idée comment il est pasteur Cyril. Je pense que c'est un bon pasteur. Certainement mieux que moi. Mieux que plus gentil, etc., etc. Mais supposons qu'il y ait quelques côtés. Eh bien, c'est normal. Il n'y a pas que... on a tous des personnalités. Mais voilà ce que le Seigneur nous demande à avoir comme relation sur ces bases-là. Que Dieu nous bénisse. Hein. Vous m'en voulez pas de vous parler comme cela, hein. C'est très bien. Parce que vous savez, je vais vous dire, je joue le beau rôle. Parce que s'il y a quelqu'un qui m'en veut, je ne suis pas le pasteur de l'église. Et puis je m'en vais en plus. Et je sais que si j'étais pasteur de l'église, je n'oserais pas, avec autant de liberté, parler comme cela. Je tire chapeau à Paul qui parlait clairement comme cela. Parce que des fois, on parle de soi, comme si on se défendait soi-même et ce n'est pas facile. Et je vous ai dit, ce n'est pas en concertation avec les pasteurs, mais vous avez remarqué, c'est important de prêcher par rapport et d'apporter la parole de Dieu et la réponse de la parole de Dieu dans le rythme, dans les saisons dans lesquelles nous passons. Et là, nous passons cette saison de changement. Et que Dieu nous bénisse ensemble avec le Christ. Amen.